Et donc, la dernière fois, nous avons posé quelques bases de ce qu'était le management stratégique et de ce que l'innovation pouvait avoir comme influence sur le management stratégique, que ce soit au niveau business ou corporate. Et puis sinon, je vous avais surtout expliqué le principe du cours et présenter les éléments sur les cinq entreprises qui vont nous servir de fil directeur, puisque on va pas toutes les prendre à leur démarrage, notamment Renault, puisque bon, voilà, on va s'intéresser qu'à la période récente de Renault. Et donc, bah, première thématique, et du coup, ça va vous permettre de découvrir aussi bah, comment fonctionne justement ce cours, c'est-à-dire avec ces histoires qui servent de fil directeur, et puis ces zooms théoriques qui vont apparaître à des moments où, bah, justement, c'est pertinent par rapport à l'histoire que je suis en train de vous raconter. Oui, c'est vrai, les flèches ne fonctionnent pas. Et donc, bah, le premier thème que l'on va aborder, c'est donc la problématique de l'enregistrement. Excusez-moi. N'avais pas fermé la porte de mon bureau et du coup, ça faisait pas mal de bruit derrière. Et donc, ça va être la problématique de la vidéo. Donc là, no notre entreprise, celle qui va être concernée, c'est Sony. Mais au début, on va parler de la naissance du marché de façon générale. Donc, au début, ce n'est pas forcément Sony qui va être le pionnier sur le marché en question. Pour situer les choses et le démarrage. Donc les travaux sur ce qui deviendra le magnétoscope commencent au début des années 1950. L'entreprise qui lance le programme de R&D le plus significatif sur le sujet, en premier, c'est l'entreprise RCA, qui était bah, une entreprise, on aura l'occasion d'indiquer un peu pourquoi elle a été créée. Elle a une histoire un peu originale, mais comme son nom l'indique, elle commençait par fabriquer des radios, puis après, bah, elle a fait des télés, et donc, complément assez naturel, elle lance un programme sur les magnétoscopes. Il y a aussi des travaux qui sont plus isolés dans des entreprises comme Toshiba et puis donc Sony, qui pour ceux qui étaient là la dernière fois, hein, souvenez-vous, c'est encore une petite entreprise. Hein, au début des années 50, ils viennent tout juste de basculer de la réparation d'appareils électriques à la conception et la fabrication d'appareils électriques. Voilà, c'est encore une entreprise très modeste, mais bah déjà, il y a quelques travaux sur le sujet. Au passage, ça montre déjà un premier élément. On va développer les deux, mais le contraste est déjà intéressant en lui-même, c'est-à-dire que d'un côté, lorsqu'on a de l'exploration comme ça sur de tout nouveaux produits, on a d'une part la possibilité que ce soit sous la forme de programmes de R&D correctement financés et formalisés. Donc c'est le cas chez RCA. Et puis, on a aussi la possibilité que ce soit des petits groupes, souvent d'ingénieurs, qui... Bah, vont de leur propre initiative et essayer de commencer à réfléchir, voire à bricoler des prototypes sur des sujets comme ça. Donc, on retrouvera ces deux dimensions-là assez vite d'ailleurs hein, dans le cours, mais on peut déjà noter que ces deux façons dont les projets exploratoires peuvent naître dans les entreprises. Et du coup, alors rassurez-vous, hein, il n'y aura pas en général juste deux lignes et hop, on passe à une thématique théorique. Au début, forcément, le côté historique sera un peu haché. Il y aura beaucoup de problématiques théoriques puisqu'on est au début et que pour ceux qui n'ont jamais fait de management d'innovation, vous allez découvrir les thématiques. Puis au fur et à mesure, il y aura moins d'interruptions, sera un peu plus fluide et continu. Donc, cette première problématique à laquelle on va s'intéresser, bah, c'est justement comment on détermine sur quel projet on met des moyens en matière de recherche et développement. Lorsqu'on parle de mettre de l'argent sur des projets, en général, dans des entreprises à but lucratif, le critère principal que l'on va mettre en avant, c'est un critère de rentabilité. C'est là où vous vous souvenez avec nostalgie et de vos cours de finance des années passées que vous avez tant aimé. Bon, il n'y a pas de réaction, c'est donc que c'est vrai. Mais enfin, sachez quand même que j'ai vu les notes de M1. Et donc de la fameuse valeur actuelle nette. Hein, vous pourrez réviser un peu cette méthode qui permet de comparer des investissements faits aujourd'hui avec des bénéfices futurs. Seulement voilà. Alors, si je vais quand même rappeler comment on écrit avec. Ouais, voilà. Si votre mémoire est bonne, vous vous souvenez peut-être que le principe de la valeur actuelle nette, c'est qu'on va avoir donc un flux négatif d'investissement qui est fait aujourd'hui. Et puis, comme on le compare à des bénéfices futurs, j'écris déjà pas super bien sur des feuilles en papier, mais alors sur l'ordinateur de cette façon-là, c'est assez. Comment dire? C'est pas très joli. Donc là, c'est le cash flow de la première année. On va supposer que voilà, on investit pendant un an et puis après, on commence à avoir des cash flows positifs. Ce n'est pas toujours le cas dès le départ. Simplement, je suis sûr que si je vous proposais que vous me prêtiez 100 euros là, tout le monde, maintenant, et que je vous rends 100 euros dans un an, vous ne trouverez pas ça intéressant du tout. Parce qu'on accorde plus de valeur à un euro aujourd'hui qu'à un euro plus tard. Et si jamais vous aviez à faire la comparaison entre les deux, bah, vous diriez, ah bah non, il faudrait que vous me rendiez au moins 105 euros parce que bah voilà, j'ajoute le taux d'intérêt et puis j'ajoute un risque parce que je ne vous connais pas bien, ça se trouve, vous ne me rembourserez pas. Donc, vous aurez, voilà, vous rajouterez un certain pourcentage. Et donc, bah, les 100 euros d'aujourd'hui deviennent 105 euros dans un an. Et puis, si jamais vous voulez savoir combien ils valent dans 2 ans, vous allez à nouveau rajouter 5%, non pas aux 100 euros d'origine, mais aux 105 euros. Donc, vous avez comme ça des intérêts capitalisés. Eh bien, le principe de la valeur actuelle nette, il est finalement assez simple, hein, c'est de faire ça, mais comme au lieu de raisonner de combien 100 euros d'aujourd'hui valent dans un an, dans 2 ans, etc., on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit combien 110 euros et quelques dedans 2 ans valent aujourd'hui, donc en l'occurrence c'est 100, combien 100 euros, 105 euros dans un an valent aujourd'hui. Donc vous voyez, au lieu de partir du présent et de regarder comment évolue la valeur, eh ben on regarde ce que les flux futurs valent en monnaie d'aujourd'hui. Et donc, bah, tout à l'heure, quand j'ai ajouté 5%, donc j'ai multiplié par 1,05, hein, en fait, voilà, j'ai multiplié par 1 plus un taux qui est au minimum le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt, il correspond à un placement sans risque. Donc plus le projet est risqué, plus vous allez exiger un peu plus ou beaucoup plus que le simple taux d'intérêt. Et donc c'est ce taux qui est ici, enfin qui est ici, qui est en général appelé A. Et donc vous voyez que tout à l'heure j'ai multiplié par 1 plus A pour passer de 100 à 105. Ben là je fais juste l'inverse. Je sais que j'aurai 105 euros dans un an. Enfin, on va dire, puisqu'on parle d'investissement, je sais que j'aurai 105 000 euros, que je gagnerai 105 000 euros dans un an. Et ben, je regarde à combien ça correspond aujourd'hui. Donc, je divise par 1,05 au lieu de multiplier. Et puis, bah, après, c'est le même principe. Le cash flow de la deuxième année. Vraiment pas de bruit. Il faudra peut-être que je prépare mes formules à l'avance. Et donc là, cette fois, je vais diviser par 1 plus A au carré, puisque ben, je capitalise les intérêts. Vous voyez, c'est tout à l'heure, je disais 100 euros d'aujourd'hui, ben, ça correspond à un peu plus de 110 euros dans 2 ans, puisque c'est 105 euros plus les 5% que j'aurai encore gagné la deuxième année. Et puis, ben, je vais m'arrêter là, évidemment, hein, mais. Le nombre de cash flow dépend de la durée de vie de l'investissement en question. Et on continue comme ça. Oh, 3 petits points. Ça vous rappelle des choses, ça, quand même. Rassurez-vous, on ne va pas
Oui,
faire
bien sûr.
beaucoup.
Oui, bien sûr. Oui.
Ah, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Sachant que je rassurerai ceux qui ne seraient pas super fans des maths financières, ouais, c'est à peu près c'est le seul moment où on va en parler. Mais alors, pourquoi je reviens vers ça? Parce que ici, on parle bien de projets innovants. Donc, qui dit projet innovant dit un peu compliqué d'évaluer les bénéfices. Et plus il s'agit d'une innovation forte, hein, on verra plus tard les typologies, mais pour ceux qui connaissent, plus on sera sur des innovations radicales, et plus ce que je vais dire là est vrai. Évidemment, s'il s'agit de petites améliorations de l'existant, ça va, on arrive à pouvoir faire des prévisions relativement fiables. Par contre, dès qu'on est sur quelque chose qui est très différent de l'existant, bah, par exemple, si vous interrogez des consommateurs sur la façon dont ils percevraient un nouveau type de produit, combien ils seraient prêts à payer, etc., bah, si le produit n'existe pas, ne ressemble à rien de ce qui existe, les personnes interrogées vont se faire une idée, et puis vont répondre en fonction d'idées qu'ils vont se faire, ce qui risque d'être très différent de la réalité quand le produit sortira. Un autre point, c'est, bah, vous ne savez pas où en sont vos concurrents. Est-ce que ils vont eux-mêmes sortir un nouveau produit à peu près en même temps que le vôtre? Et puis si Le produit en question, est-ce qu'il sera plutôt moins performant ou plus performant que le vôtre? Est-ce qu'il sera plus cher, moins cher? Tout ça, c'est plein d'éléments qui vous manquent. Et même s'il ne sort pas de produit, bah, comment ils vont réagir à la sortie de votre produit? Si par exemple ils décident d'être extrêmement agressifs et de baisser leur prix de 30%, bah, ça va forcément peser fortement sur vos ventes et donc sur vos cash flows positifs. Et puis voilà, d'une manière générale, on a beaucoup de mal à bien évaluer sur des produits très innovants quel pourrait être le volume vendu, sachant que alors, là aussi, c'est partie des points sur lesquels on reviendra, mais il y a des marchés qui mettent parfois du temps à décoller. Même si vous connaissez le volume global potentiel, vous ne savez pas si il sera atteint en 5 ans ou s'il sera atteint en 3 ans ou en 15 ans. Donc l'inconnu des volumes, l'inconnu des coûts, puisqu'on est sur des choses dont on n'a pas encore parfaitement défini les caractéristiques. Donc vous voyez bien que forcément, vous ne pouvez pas définir de manière extrêmement précise les coûts. Pour faire du prévisionnel sur du bénéfice futur quand vous n'avez pas les volumes, que vous n'avez pas les coûts, que vous ne savez d'ailleurs même pas à quel prix vous allez vendre votre produit, que vous ne connaissez pas les réactions des concurrents, bon, ça fait beaucoup, beaucoup d'hypothèses très différentes et donc de résultats très différents. L'investissement lui-même est difficile à évaluer parce que quand on est sur de l'innovation, on peut très bien se heurter à un problème technique qu'on pensait, on savait qu'on aurait un problème à résoudre. On avait prévu dans notre planning 3 semaines pour que les équipes résolvent le problème. Et puis, mauvaise surprise, elles mettent 6 mois. Et donc là, tout votre projet est décalé. Et avec le risque que ce qui devait être le cash flow de l'année 1 pourrait devenir le cash flow de l'année 2, et vous voyez que tout se retrouve décalé. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que, en gros, tous les éléments clés qui permettent le calcul de la valeur actuelle nette, en fait, sont inconnus. Alors, on a des idées, on émet des hypothèses, hein, ça ne veut pas dire qu'on. Du coup, vous voyez, mobiliser un outil comme ça, alors même que les données que l'on met dedans sont très, très, très peu précises, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et alors, le résultat de ça, c'est que on va plutôt utiliser d'autres critères de façon prioritaire. On va beaucoup regarder l'adéquation avec la stratégie, c'est-à-dire est-ce que l'innovation que l'on compte mettre en œuvre est bien en ligne avec la stratégie de l'entreprise. On va regarder d'autres types de bénéfices, et notamment est-ce que ça nous permet d'acquérir des compétences qui pourraient être utiles pour l'avenir. Parce que, alors, une autre difficulté, c'est que quand on lance un projet de R&D, on peut se dire, voilà, ça va aboutir à un produit. Normalement, si je suis capable de mettre un investissement, des cash flows, c'est que ça aboutit soit à un produit, soit à des nouveaux procédés de fabrication qui permettent d'économiser sur les coûts. Dans ce cas-là, le cash flow, l'équivalent du cash flow, c'est les économies. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le problème, c'est que vous ne savez pas si ce que vous allez acquérir comme compétence dans le cadre de cette R&D ne va pas vous servir pour d'autres produits par la suite. Hein, l'exemple que je prends souvent, c'est si on calcule après coup la valeur actuelle nette du lancement de la Prius par Toyota, elle est clairement négative. Tout le monde, alors on ne connaît pas les chiffres précis, mais voilà, toutes les analyses convergent très clairement pour indiquer que, compte tenu des volumes qui ont été vendus, qui ne sont pas énormes, compte tenu des investissements considérables qu'a fait Toyota pour mettre au point son moteur hybride, la Prius d'origine est un projet déficitaire. Seulement, s'il n'y avait pas eu la Prius 1, il n'y aurait pas eu la Prius 2, il n'y aurait pas eu la Prius 3. Or, celles-là, elles sont devenues rentables, et puis ils n'auraient pas été en mesure d'équiper peu à peu toute leur gamme de moteurs hybrides. Donc, on voit que, au bout du compte, l'investissement qu'ils ont fait dans la Prius a été extrêmement rentable pour Toyota. Mais pas si vous ne prenez que la Prius 1, première version. Donc ça vient aussi compliquer les choses. Et puis, je ne l'ai pas écrit, mais évidemment, dans tout choix d'investissement, vous allez aussi prendre en compte le risque, hein. Donc, c'est le cas. Quand on calcule la valeur actuelle nette, on peut intégrer le risque dedans. Là, vous allez le prendre à part. Et alors une autre conséquence, c'est que vous essayiez ou pas de faire des projections financières, vous avez quand même un risque très important de financer des projets qui, à la fin, s'avèrent être des gouffres financiers. Et puis aussi, ça y est, la gomme. Hop. Heureusement que j'ai pas trop de trucs comme ça à faire en complément. Et puis, à l'inverse, d'éliminer des projets qui, en réalité, se seraient avérés extrêmement intéressants. Et ça, vous le saurez que si, par exemple, un concurrent, lui, décide de lancer un projet comparable et connaît un énorme succès, et là, vous regretterez beaucoup de ne pas avoir accepté le projet qu'on vous a proposé 3 ans avant. Mais alors, si je continue à tirer mon raisonnement, à partir de ce moment-là, donc vous voyez, un système qui va donner beaucoup d'importance à l'alignement avec la stratégie, ce qui est en soi normal, hein, parce que une stratégie, ça sert à ça. Ça sert à donner des orientations, et logiquement, quand on fait des investissements, on va majoritairement les mettre dans l'orientation, sinon ça sert à rien. Donc en soi, c'est normal. En même temps, vous voyez qu'on va pas prendre trop de risques, puisque on sait qu'il y a beaucoup de faux négatifs et beaucoup de faux positifs. Mais dans la plupart des cas, les faux négatifs, c'est-à-dire des projets que l'on pense peu intéressants et qui auraient été intéressants. Donc, ça va vous sauter aux yeux si un concurrent fait un projet vraiment très comparable et réussi. Mais il y a plein de cas, évidemment, où vous ne saurez jamais si ça aurait été une réussite ou pas. Et même des fois, quand un concurrent le fait, vous n'avez pas exactement les mêmes compétences, vous ne pouvez pas être sûr que vous l'aurez développé dans le même délai, etc. Donc, in fine, les faux négatifs, donc les projets que vous avez éliminés et qui auraient été intéressants, en général, on ne les voit pas. Par contre, si vous avez mis 30 millions d'euros sur un projet qui, à la fin, n'aboutit à rien, alors ça se voit beaucoup. Donc, il est relativement rationnel pour l'encadrement de sélectionner des projets pas trop risqués. Et puis, pour qu'un projet ne soit pas trop risqué quand on est dans des projets de R&D, ça veut dire qu'on va avant tout faire des projets sur ce que l'on sait déjà faire. Hein? Donc mobilisant des compétences que l'on maîtrise déjà. Parce que lancer des projets sur des compétences, mobilisant des compétences que l'on n'a pas encore, vous voyez bien que par nature même, c'est très risqué. puisqu'on peut carrément ne jamais aboutir, en ce sens que le produit peut ne jamais sortir, donc c'est même plus juste le risque que ça ne soit pas le succès attendu, hein. C'est carrément le risque qu'on ne mette jamais au point la technologie qu'on souhaitait, sur laquelle on souhaitait se lancer. Et donc ça, si je reprends les termes qu'avait utilisé un grand chercheur en management qui s'appelle James March, eh bien ça veut dire qu'on va avoir tendance à favoriser les projets dits d'exploitation par rapport aux projets dits d'exploration. Hein, les activités d'exploitation étant celles qui utilisent le portefeuille de ressources et compétences de l'entreprise, donc son portefeuille de ressources et compétences actuelles, pour pouvoir générer de la valeur. Et les activités d'exploration étant des activités qui défrichent des nouvelles voies qui pourraient être des ressources et compétences pour le futur. Or, ce que dit James March, alors il va plus loin que ça, hein, il démontre en quoi les deux font appel à des mécanismes organisationnels, etc., différents, et ça, on aura l'occasion d'y revenir, hein, plusieurs reprises, en fait, dans le cours. Mais il nous dit aussi qu'il faut faire les deux, hein, et qu'une entreprise qui ne fait que de l'exploitation, le risque, c'est qu'elle rate un virage extrêmement important pour son avenir. Alors évidemment, à l'inverse, hein, une entreprise qui ne ferait que des activités d'exploration, elle ne tirerait jamais de valeur de ce qu'elle invente. Donc évidemment, là, elle ferait faillite assez rapidement. Les activités d'exploitation, c'est celles qui font vivre, hein, l'entreprise. Donc c'est un peu logique qu'on ait tendance à aller naturellement plutôt vers les activités d'exploitation. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, on est conscient du fait que pour vraiment défricher des choses toutes nouvelles, les grands programmes de R&D classiques ne sont pas la voie la plus pertinente. Et c'est pour ça que on va parfois de façon explicite, laisser des marges de manœuvre aux salariés. Donc, vous connaissez sans doute la règle des 20%, hein, de la journée qui peut être consacrée à des projets qui n'ont pas été validés par la hiérarchie chez Google. Ce n'est pas du tout une entreprise pionnière de ça, hein. L'entreprise qui était avant principalement connue pour ça, c'est 3M. Chez qui c'est 15%, mais il n'empêche qu'on a cette même idée et qui est largement associée au fait que certains de ces produits, dont le plus connu est le Post-it, ont été créés par des salariés de leur propre initiative, hein, sans la validation de la hiérarchie. Alors, dans certains cas, ce n'est pas officiel. On ne donne pas officiellement tant de pourcents aux salariés pour travailler sur des projets non validés, mais ils le font quand même. Et simplement, on n'a pas mis en place des contrôles extrêmement serrés. Et assez souvent, d'ailleurs, le management ne sait pas exactement sur quoi telle ou telle équipe travaille, mais ils se rendent bien compte qu'ils travaillent sur des choses qui ne sont pas seulement la mission qui leur a été confiée. On a une expression pour ça. Alors, en français, on dit que c'est des projets qui sont menés en perruque. Donc ça veut dire en cachette, hein. Je ne sais pas exactement pour. Enfin, on voit bien que perruque, ça fait penser effectivement à quelque chose de caché. Mais bon, c'est exactement pourquoi on a utilisé ce terme-là, ça je suis bien incapable de vous le dire. D'ailleurs, d'une manière dominante, en général, quand on parlait de travail en perruque, c'était plutôt négatif. C'est-à-dire que bah, malgré tout, c'est quand même des salariés qui détournent des moyens de l'entreprise pour mener à bien des projets qui sont des projets qui leur tiennent à eux à cœur et pas forcément à la direction de l'entreprise. Mais justement, dans certaines entreprises à caractère innovant, bah c'est toléré quelque part, c'est toléré parce qu'on sait très bien que ça peut aboutir à des choses intéressantes. Alors, je vous ai mis l'exemple, évidemment, quand vous lisez le cas de Sawazaki chez Toshiba, ça ne doit pas vous parler beaucoup, c'est normal. Simplement, bah, Sawazaki, c'est un ingénieur, pour de chez Toshiba, ça vous l'avez deviné, qui, malgré l'avis négatif de sa direction, a persisté à continuer à essayer de chercher des manières d'améliorer la lecture des bandes magnétiques. Donc, en fait, sans que Toshiba n'ait jamais lancé un programme de R&D sur les magnétoscopes, cet ingénieur, parfois équipé, parfois aidé, je ne sais pas pourquoi équipé, parfois aidé bah de personnes autour de lui, hein, et bien va réussir à mettre au point un nouveau système de lecture qui d'ailleurs par la suite s'imposera parce qu'il était beaucoup plus performant que le système qui a été utilisé sur les premiers magnétoscopes. Et donc, ça va beaucoup aidé Toshiba quand finalement ils vont décider d'aller sur le marché du magnétoscope. Ça peut être aussi en proposant des structures et des lieux qui sont faits exprès pour aller explorer des choses. Donc ça peut être de mettre en place des Fab Labs internes. Déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un Fab Lab?
Non.
Alors, un Fab Lab, c'est un endroit physique hein, où vous allez trouver toutes sortes de machines qui permettent de construire des prototypes. Donc, c'est un endroit pour bricoleurs. Hein, Alors l'équipement, je dirais de base, celui qu'on va trouver dans n'importe quel Fab Lab, c'est l'imprimante 3D. Mais après, il y a en général tout un ensemble d'autres équipements, alors en tout genre, hein. Vous avez des équipements pour souder des cartes électroniques, vous avez des machines à coudre. Et vous avez souvent des machines plus lourdes aussi, hein, des découpeuses, etc. Donc, il y a d'ailleurs, alors le terme de Fab Lab a été déposé par le MIT, le concept a été inventé par le MIT, hein, enfin pas un chercheur du MIT, et du coup il y a tout un réseau qui s'est créé de Fab Lab. Il y a une liste minimum d'équipements qu'on doit trouver dans un Fab Lab pour avoir le droit à l'appellation. Et puis sinon, on peut rajouter autant d'équipements que l'on veut, avec souvent bah, une thématique. Il y a un Fab Lab à l'Institut d'optique, par exemple, si je parle de Saclay. Bah, évidemment, il est très orienté vers électronique et optique. Donc voilà ce que c'est. D'une manière générale, qu'un Fab Lab, je pourrais vous mettre des photos pour illustrer sur le e-campus, parce que j'avais eu la chance d'accompagner un groupe dans la Silicon Valley de nos étudiants entrepreneurs. On avait visité un Fab Lab connu là-bas. Et puis, par ailleurs, beaucoup plus près. L'année dernière, on organisera d'ailleurs sûrement aussi cette année une visite du Fab Lab de l'Université Paris-Saclay, puisque l'Université Paris-Saclay a un Fab Lab. Et donc j'avais pris quelques photos. Donc voilà, je les mettrai comme ça a permis de visualiser un peu ce qu'il y a concrètement dans un Fab Lab, à quoi ça ressemble. Et alors, celles et ceux d'entre vous qui ont comment dire, qui repèrent les petits détails, auront noté que j'ai mis Fab Lab entre guillemets. C'est parce que quand on. Donc, dans cette charte des Fab Labs et ce club des Fab Labs, il y a un certain nombre de principes. Et l'un des principes de base d'un vrai Fab Lab, c'est qu'il est ouvert. Or, dans les entreprises, évidemment, en règle générale, il n'est pas ouvert au public. Hein. Ouais. Donc, en fait, voilà, vous avez par exemple un, entre guillemets, Fab Lab en plein milieu du centre de R&D de chez Renault à Guyancourt, au Technocentre. Évidemment, vous ne pouvez pas aller bricoler quelque chose en plein milieu du centre de R&D de chez Renault à Guyancourt. Il n'y a que les salariés qui peuvent y accéder. Et du coup, ça ne peut pas être un vrai Fab Lab. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, parce que sinon, par ailleurs, ils en ont toutes les caractéristiques, hein, donc, mais ils font pas. Ils ne peuvent pas directement utiliser l'appellation en tant que telle. Donc voilà, et donc vous voyez que dans le cadre de projets d'exploration, ça permet de bricoler des prototypes, hein, donc sans qu'on rentre dans un système de sélection automatique. Normalement, l'esprit d'un Fab Lab, c'est vous avez quelque chose à construire, bah, hop, vous réservez un espace quand les Fab Labs sont. Sont très sollicités, puis sinon même en général vous y allez et puis soit vous amenez votre matière première, vos composants, soit vous participez quand même à l'achat des matières premières et composants. Encore, en général, on trouve pas mal de choses sur place mis à disposition et puis vous bricolez votre truc. Très souvent, il y a de l'entraide entre les personnes qui sont dans le Fab Lab. Et puis, du coup, vous pouvez présenter ensuite votre projet avec un prototype, ce qui donne souvent beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de probabilité d'obtenir un feu vert que si c'est juste une idée sur un papier. Dans la phase suivante, vous pouvez avoir des incubateurs. Donc, un incubateur, c'est une structure qui est faite pour. Comme son nom l'indique, hein, au moment où le projet n'est pas encore véritablement lancé, où il a besoin d'être mis sous une sorte de cocon protecteur, il y a à la fois des incubateurs externes. Dans le cours de spécificité de la gestion d'un projet innovant, normalement, vous aurez une intervention de la directrice générale de l'incubateur principal qui incube les projets issus de la recherche à Paris-Saclay, qui s'appelle Incuballiance. Et puis vous avez, et c'est cela qui nous intéresse là dans ce cadre-là, c'est des incubateurs internes aux entreprises. Alors, qui généralement peuvent incuber aussi bien des projets qui viennent des salariés que des projets qui viennent de l'extérieur, hein, mais sur lesquels ils sont intéressés, parce que là, l'intérêt pour eux, c'est qu'évidemment, en les faisant intégrer leurs incubateurs, ils gardent un œil dessus. Et donc, s'il s'avère que c'est réellement intéressant, par la suite, ils peuvent prendre une participation dedans, investir dedans, puisque les grandes entreprises ont aussi souvent des fonds d'investissement et des fonds de capital risque, en fait. Et donc, ça leur permet de prendre des participations dans des startups. Et vous voyez que, du coup, ça va leur permettre d'aller dans des voies, d'explorer des choses qu'ils n'auraient jamais financées à 100% dans le cadre de projets normaux. Mais simplement, là, vous voyez bien que, au début, les salariés, ils vont bricoler tout seuls. Donc, il n'y a pas de coût direct très fort pour l'entreprise, à part la mise à disposition du Fab Lab. L'incubation Bah, évidemment, il y a des salariés qui sont là pour aider les start-upeurs, qui les conseillent dans la levée de fonds, dans l'approche du marché, etc. Mais là encore, c'est très limité hein, par rapport à l'ampleur que peut avoir un projet de R&D. Et puis même si on prend une participation dans le projet, en général, dans un premier temps, on va prendre une participation minoritaire. Donc, bah, si vous prenez en moyenne 15%, alors je simplifie un peu parce que évidemment, une start-up, elle peut prendre de la valeur plus que, elle n'a dépensé d'argent. Mais pour faire simple, si vous prenez 15% en moyenne de projets qui justement n'ont pas encore pris beaucoup de valeur et dont la valeur correspond largement à ce qui a été dépensé, eh bien, vous allez pouvoir investir dans 6 fois plus de projets que si vous aviez pris en charge le coût complet de chacun de ces projets. Et donc, forcément, si vous pouvez investir dans 6 fois plus de projets, vous allez aller chercher des projets qui sont un peu plus risqués, un peu moins dans la ligne actuelle de la stratégie de l'entreprise, bah, justement pour garder un œil dessus et éventuellement pouvoir mettre la main dessus si ça devient un axe stratégique. Et puis, ça peut être, d'une manière générale, des structures qui sont là pour inciter. Donc, ça peut être des systèmes de récolte des idées, etc. Puis après, bah, les incubateurs en font partie, des programmes d'accélération, des formations à l'entrepreneuriat, etc., que vous proposez aux salariés qui proposent des projets, enfin qui, c'est pas qu'ils les proposent d'ailleurs, c'est qu'ils ils ont des idées et ils veulent mener à bien le projet en question et idéalement au sein de leur propre entreprise. Donc vous voyez que tous ces éléments-là, ça vise à ce qu'il y ait des petits morceaux d'exploration. Ici ou là, pas aussi coûteux que si on lançait des grands programmes de R&D d'exploration, mais qui permettent du coup bah, d'aller quand même acquérir des nouvelles compétences, de regarder si telle voie technologique semble prometteuse ou pas, etc. Et puis par ailleurs, les liens que peuvent tisser les grandes entreprises avec les startups sont aussi faits dans ce cadre-là. Bon, j'ai parlé des incubateurs tout à l'heure, mais il y a plein d'autres liens possibles. Ça peut être des partenariats, ça peut être des prises de participation, ça peut être très en amont. Des fois, les entreprises organisent des concours, des hackathons, ce genre de choses, pour essayer de, là encore, bah voir, sentir déjà quel type de projet émerge et puis éventuellement bah, essayer de repérer des startups potentiellement intéressantes pour eux. Alors, on ne va pas trop développer dès maintenant ça, mais c'est vrai que l'une des grandes difficultés, quelque part, si une entreprise a vraiment des moyens, elle arrive quand même à mettre en place des structures, des lieux, etc., qui permettent de faire un peu d'exploration. Et même parfois, elle va quand même mettre en place quelques projets de R&D avec un horizon à plus long terme, et donc qui relèvent quand même de l'exploration. Et si l'entreprise fait ça, elle n'a résolu qu'une partie du problème, pour autant. Puisque l'autre difficulté, c'est une fois qu'on a des activités d'exploration, c'est comment on les relie aux activités d'exploitation. Alors là, très clairement, hein, la théorie et l'expérience nous disent qu'il ne faut surtout pas affilier les activités d'exploration aux activités d'exploitation. Les activités d'exploitation vont étouffer les activités d'exploration. Donc il faut les détacher. Mais en même temps, c'est un peu dommage si jamais vous les détachez tellement qu'il n'y a plus du tout de synergie avec les activités d'exploitation. Et donc, bah, il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire leur donner une autonomie suffisante pour qu'elles restent dans une optique d'exploration et qu'on n'ait pas voilà, une direction qui demande des résultats à court terme parce qu'on n'est pas dans cet esprit-là. Mais en même temps, bah, qu'il ne soit pas non plus totalement en dehors et qui. Parce que dans ces cas-là, ça ne donne pas grand-chose de le faire dans l'entreprise plutôt qu'à l'extérieur. Donc, bah, parmi les exemples célèbres de cas de ce type-là, bah, il y a Kodak. Parce que contrairement à la caricature qu'on en fait souvent, Kodak a fait de la R&D sur la photo numérique. Ils ne sont pas passés à côté. Mais par contre, c'est vrai que probablement, ils ont réintégré trop vite les activités numériques dans les divisions classiques de l'entreprise. En tout cas, c'est l'analyse que font certains chercheurs et experts. Pour votre gamme de vocabulaire, sachez que si vous entendez parler d'organisation ambidextre, alors c'est plus un terme utilisé en recherche que par les professionnels, les praticiens, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, si vous lisez des choses aussi, voilà, sachez que une organisation ambidextre, c'est une organisation qui parvient à la fois à bien gérer ses activités d'exploration et d'exploitation. Ce qui, encore une fois, n'a rien d'évident, parce que ça ne demande pas les mêmes qualités, ça ne demande pas les mêmes structures organisationnelles, etc. Alors, ça a aussi chez certains auteurs, un sens un petit peu plus précis, mais ça inclut, enfin, c'est plus précis, mais c'est quand même cet esprit-là. Donc voilà pour notre premier petit détour théorique. Donc voilà, comme ça, régulièrement, vous aurez là, comme je viens d'évoquer le programme de R&D chez RCA et le fait qu'il y a justement des salariés un peu en perruque, qui mène des recherches exploratoires sur le magnétoscope chez Sony et Toshiba, bah, c'était l'occasion de vous parler de ces éléments-là. Et puis, bah là, surprise. Surprise, c'est pas RCA, c'est pas non plus Sony ou Toshiba qui sont les premiers à lancer un magnétoscope. Alors, je n'ai pas trouvé d'informations très précises sur quand Ampex a lancé, lui, ses propres développements sur le sujet, etc. Parce qu'à l'époque, c'est une entreprise qui avant ça, n'est pas du tout connue. Hein. Donc, du coup, évidemment, il n'y a pas tellement de documentation sur ce qu'était Ampex avant le magnétoscope. Mais toujours est-il que, bah voilà, c'est un nouvel arrivant surprise, en quelque sorte, qui débarque sur le marché avec le premier magnétoscope. Et alors, le premier magnétoscope, il est assez intéressant sur la manière dont parfois vont évoluer des marchés, parce que il a quelques caractéristiques qui, je pense, vous freinerez un petit peu si vous étiez en 1956 et que vous découvriez cette magnifique machine. Le coût est quand même assez conséquent. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des équipements audiovisuels à 400 000 euros. Moi, pas. Ça existe. Donc évidemment, il n'y a aucun particulier qui va acheter un magnétoscope l'équivalent aujourd'hui de 400 000 dollars. En gros, ça coûte le prix d'un appartement ou d'une maison dans une zone où c'est pas. En plus, hein, c'est pas beau, c'est super gros. Vous voyez. C'est ça à l'époque, un magnétoscope. Et donc, vous l'avez deviné, on ne vise pas du tout les particuliers. En fait, on vise les studios de télévision. Et en fait, ça va se diffuser très vite auprès des studios de télévision. Alors, ça ne fait pas des gros volumes de vente, hein, mais tout simplement parce que bah, pour l'enregistrement d'émissions, etc., ça a un coût. Il y avait quelque chose. J'ai jamais pu trouver vraiment de données très précises sur ce fameux kinéscope. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que visiblement, il avait des coûts d'exploitation très élevés. Si bien qu'en fait, quand on achetait un magnétoscope, en 18 mois à 2 ans, on avait déjà économisé l'équivalent de ce qui nous avait coûté. Et du coup, c'est un succès rapide. Mais encore une fois, on est bien d'accord, hein, rapide auprès des studios de télévision, hein, donc on est sur des volumes de vente très limités. Ça nous amène à une autre petite détour théorique, puisque je viens de dire qu'il y a un élément qui fait que cette innovation se diffuse rapidement. Eh bien, on va s'intéresser un petit peu à la vitesse de diffusion des innovations. Parce qu'évidemment, quand on est innovateur, on essaye d'anticiper un peu. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des difficultés avec la valeur actuelle nette, je vous ai dit qu'une des difficultés, c'est qu'on ne savait pas si on allait atteindre notre plein potentiel en termes de volume en 3 ans, en 5 ans ou en 15 ans. On ne peut jamais le savoir. Mais vous pouvez quand même essayer de regarder quels sont les facteurs qui pourrait freiner fortement la diffusion de votre innovation ou qui pourrait au contraire l'accélérer. Et donc, là-dessus, alors il y a plusieurs théories hein, sur la diffusion des innovations, mais nous, on va se concentrer sur la plus célèbre d'entre elles. On va voir en deux temps, hein, là, on va se concentrer uniquement sur la vitesse, et puis plus loin dans le cours, on verra. Quelle forme a le processus typique de diffusion d'une innovation et pourquoi. Pour Rogers, il y a cinq facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a, alors ça ne vous surprendra pas, mais on y reviendra juste après. En même temps, ce n'est pas un critère aussi simple qu'il y paraît au premier abord. Enfin bon, quand on le donne, évidemment, on se dit, bah oui, on se doutait un peu que, a priori, une technologie beaucoup plus performante que, enfin, un produit qui est beaucoup plus performant que les produits existants, bah, a plus de probabilité de se diffuser plus vite qu'à un produit moins performant. Ça semble assez logique. Ensuite, de manière peut-être un peu moins évidente, même si après coup on se dit bah oui c'est logique, hein, mais j'aurais pu faire l'expérience, un petit regret, à vous demander ce que vous pensiez être les facteurs en question. Je pense que vous auriez peut-être pas avec ces mots-là, mais vous m'auriez parlé de l'avantage relatif. Est-ce que vous auriez parlé spontanément de la compatibilité? Je suis moins sûr. Alors, d'autant que ici, chez Rogers, qui est sociologue hein, de formation, c'est la compatibilité sociale. C'est-à-dire, est-ce que ça change les habitudes d'utilisation est-ce que ça va bouleverser les habitudes, en gros, des consommateurs ou des clients? Puisque sa théorie vaut aussi bien pour le B2B, le business to business, que pour le business to consumer. Donc chez lui, c'est la compatibilité sociale. Ceci étant, si on regarde bien, et notamment dans beaucoup d'exemples que l'on va avoir l'occasion de voir, la compatibilité technique joue aussi. Donc bon, en même temps, ça marche aussi avec compatibilité, donc on peut laisser compatibilité tout court, mais par contre, ne le réduisez pas à la seule compatibilité technique. Ensuite, troisième facteur, la complexité. Alors évidemment, la complexité joue défavorablement. Hein, jusque-là, avantage relatif, compatibilité, ça joue favorablement. La complexité joue défavorablement. Et au passage, c'est bien la complexité perçue qui compte. Parfois, il y a des produits qui, à l'usage, s'avèrent plus simples que ce qu'on pensait. Alors, ce qui rejoint, du coup, aussi le quatrième facteur, c'est que si on peut essayer la technologie à une échelle limitée, eh bien, bon, déjà, ça permet de vraiment constater l'avantage relatif par rapport à l'existant. Ça permet de voir qu'en effet, on arrive à l'utiliser sans trop de soucis. Donc, ça peut nuancer l'impression de complexité qu'on peut avoir à l'origine, dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est vrai, on peut aussi découvrir à quel point c'est complexe. Donc, globalement, la possibilité d'essayer une technologie à une échelle limitée va favoriser la diffusion de l'innovation. Et puis, alors ce qui peut parfois compenser en partie le fait qu'on ne peut pas essayer, bah c'est au moins de pouvoir observer chez d'autres qui l'ont mise en œuvre. Donc si on peut observer l'utilisation de l'innovation, même si on ne la fait pas, si on ne l'a pas nous-mêmes essayé, eh bien, ça va favoriser la diffusion de l'innovation. Donc voilà les cinq facteurs qu'il met en avant. On verra un peu plus loin dans le cours qu'on peut prendre les choses sous un angle un peu différent et par exemple évaluer quels sont les freins à la diffusion d'une innovation. Et du coup, bah, ça conduit à des choses qui sont pas du tout incompatibles, mais comme c'est un angle différent, on ne va pas mettre en avant les mêmes choses. Alors, je vous l'ai dit, je reviens un tout petit peu sur cet avantage relatif. Parce que c'est d'un côté le plus évident, sans doute, des critères, mais en réalité, il est beaucoup plus complexe que ce qui pourrait y paraître comme ça, a priori. D'abord, les critères de performance, il y en a plusieurs, avec une certaine hiérarchie, hein, des critères très importants, des critères moins importants, etc. Et, or, d'un acteur à l'autre, d'une industrie ou d'un consommateur ou d'une consommatrice à l'autre, on ne va pas avoir la même hiérarchie des critères. Donc ça veut dire que parfois, un produit qui est moins performant sur plein de critères va quand même pouvoir trouver son public parce que c'est un public qui est particulièrement sensible à ce critère-là, qui est le seul sur lequel, c'est peut-être le seul sur lequel il est plus performant. Mais voilà, c'est celui qui est important pour ces entreprises-là ou pour ces gens-là. Et du coup, bah, dans un premier temps, il ne pourra pas viser l'ensemble du marché, mais il trouvera quand même sa niche et il pourra commencer à se diffuser. Et après, du coup, ça peut avoir... Enfin, une fois qu'il commence à se diffuser, ça donne des moyens aux entreprises qui sont derrière d'améliorer les autres critères, si bien que peu à peu... Bah, il peut compenser son handicap sur les critères sur lesquels il était plus faible. Et c'est comme ça que parfois des technologies qui démarrent en étant en apparence nettement moins performantes que celles qu'elles venaient concurrencer, eh bien, réussissent quand même à se diffuser. Et bah, quand il y a un potentiel d'évolution important de la technologie, qu'elle peut s'améliorer fortement sur les autres critères, c'est ce qui se produit et on finit par... Alors, Clayton Christensen, qui est un grand nom du management de l'innovation, dans son livre le plus célèbre, hein, Le dilemme de l'innovateur, The Innovator's Dilemma, donne plusieurs exemples. Et parmi les exemples, il y a celui du disque dur. Alors, je ne vais pas vous le faire en détail. Mais grosso modo, au début, les disques durs, c'était quelque chose de très gros. Et puis, bah, comme c'était les seuls ordinateurs dans lesquels on mettait des disques durs, c'était les ordinateurs les plus puissants, bah, l'obsession des fabricants de disques durs, dont le premier était IBM, c'était d'augmenter la capacité des disques durs. Donc, les premiers disques durs, ils faisaient 5 mégaoctets. Ils avaient la taille d'une armoire, ils faisaient 5 mégaoctets de capacité. Et puis bah donc, on a fait des disques durs de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150 mégaoctets. Et puis alors qu'on était déjà capable de faire ces disques durs de 100, 150 mégaoctets, il y a des ingénieurs dans une entreprise qui sont arrivés en proposant un disque dur plus petit, plus compact. Il faisait 8 pouces de diamètre au lieu de 13 pouces, de 10 mégaoctets. Réaction logique des dirigeants, hein, du management de l'entreprise en question. On ne peut pas faire grand-chose d'un disque dur de 10 mégaoctets. Nos clients, ils veulent des disques durs de 100 ou 150 mégaoctets. On ne peut pas sortir à une technologie qui est 10 ou 15 fois inférieure sur le critère principal de nos clients. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas juste parce qu'il est plus petit qu'ils vont nous acheter un disque dur qui contient 15 fois moins d'informations. Et donc, l'innovation est refusée. Les salariés y croient quand même. Ils se disent... Quand même, il y a sûrement des entreprises qui sont intéressées par des disques durs plus compacts, et puis on pourra progresser sur la capacité. Et donc, ils lancent leur disque dur 8 pouces, et ce disque dur 8 pouces va effectivement être intégré dans une catégorie d'ordinateurs qui était beaucoup moins puissante, donc qui demandait, enfin, qui avait aussi moins de mémoire, moins de tout. Et donc, il n'y avait pas besoin de disques durs de 150 mégaoctets. Et ces ordinateurs, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on appelle d'ailleurs toujours, mais le segment a presque disparu, des mini-ordinateurs. Comme son nom l'indique, un mini-ordinateur est un ordinateur de la taille d'une armoire. J'espère que j'ai réussi mon petit effet, parce que. Normalement, les étudiants, ils sourient quand je dis ça, ou ils ont un air un peu surpris. Enfin, ceux qui ne connaissent pas le domaine de l'informatique ou pas au point de connaître ça. Et donc, du coup, eux, ils étaient. Un disque dur de 13 pouces, ça prenait trop de place dans un mini-ordinateur. Donc, le seul moyen pour eux d'intégrer des disques durs, c'était d'avoir des disques durs plus compacts. Et donc, eux ont intégré des disques durs 8 pouces de 10 mégaoctets. Donc, ils ont trouvé leur marché. Et alors, en plus, dans le cas en question, il se trouve que c'est à un moment où les volumes de vente de mini-ordinateurs progressaient beaucoup plus vite que ceux des gros ordinateurs, et où les volumes d'ailleurs ont dépassé largement ceux des gros ordinateurs. Et le résultat, c'est que bah, finalement, ce n'était pas seulement une niche, hein, c'est une niche qui a grandi très vite, et ils se sont retrouvés à vendre beaucoup plus de disques durs 8 pouces qu'ils ne vendaient de disques durs 13 pouces. Et en plus, bah, après, ils ont pu financer de la recherche et développement pour augmenter les capacités. Et donc, ils ont fait des disques durs de 20, 30, 40, etc. Alors, ils n'ont jamais complètement rattrapé la capacité des disques durs 13 pouces, mais ils s'en sont rapprochés. Au point que, même pour un fabricant de gros ordinateurs, il pouvait être plus intéressant d'avoir deux disques durs 8 pouces, qui prenaient à peine plus de place qu'un disque dur 13 pouces, à la place d'un disque dur 13 pouces. Si vous mettiez deux disques durs 8 pouces de 100 mégaoctets, eh bien, ça vous faisait plus qu'un disque dur 13 pouces de 150 mégaoctets en capacité. Et après, ça prenait à peine plus de place. Et puis, bah, je ne vais pas vous le refaire de façon aussi détaillée, mais il s'est passé à peu près la même chose. Il y a des variantes quand même, hein. Des fois, l'entreprise a quand même fini par lancer, etc. Donc, mais il y a eu les mêmes résistances au départ quand des équipes de R&D ont proposé des disques durs 5 pouces et quart. Parce que là encore, au début, c'était des disques durs de 10 mégaoctets. Donc, c'était entre-temps, les disques durs 8 pouces avaient beaucoup gagné, enfin avaient gagné en capacité, donc ça paraissait pas performant, et ça a été intégré dans des micro-ordinateurs. Et puis après, il y a eu à peu près la même chose sur les disques durs 3 pouces et demi, qui ont été intégrés dans un premier temps aux ordinateurs portables, et puis ainsi de suite. Et donc on voit que à chaque fois, il y a une nouvelle catégorie de disque dur qui sort. Elle a moins de capacité, elle est moins rapide. Donc, en fait, elle est moins bonne sur les critères principaux pour les clients auxquels, à ce moment-là, les fabricants de disques durs s'adressent. Sauf que apparaissent des nouveaux clients à côté qui, eux, sont très intéressés par le côté compact. Il se trouve que les disques durs compacts étaient aussi souvent, enfin, sont devenus aussi plus robustes, résistaient mieux aux vibrations, etc. Ce qui a été très important aussi pour les ordinateurs portables, évidemment. Donc finalement, il y a un autre critère aussi qui est devenu important au fil du temps, alors qu'avant, un ordinateur, ça bougeait pas et c'était dans une salle climatisée, donc il y avait certains éléments. On n'avait pas besoin de prendre en compte la capacité à résister à des températures de moins 10 à 40, ce genre de choses, c'était absolument pas pris en compte dans les premiers, enfin pendant très longtemps dans les disques durs, parce que ça n'avait pas d'utilité. Il faisait jamais moins 10 ou 40 dans une salle informatique. Un autre point sur l'avantage relatif, c'est que vous serez peut-être surpris de voir que Rogers ne mentionne pas les prix. Parce qu'en fait, c'est intégré dans l'avantage relatif. L'avantage relatif, il peut être un avantage relatif en termes de prix. C'est vrai que dans le cas le plus fréquent, quand on a une innovation qui arrive sur le marché, souvent elle est beaucoup plus chère que l'existant. Donc on est plutôt dans des situations où l'avantage relatif, c'est la performance, et où le prix, par contre, est le handicap. Alors des fois, on se retrouve avec un prix tellement élevé que c'est très difficile d'imposer son produit sur le marché. C'était ce qui est arrivé à Xerox, hein, dont les photocopieurs, ils venaient d'inventer le photocopieur, auraient coûté de l'ordre de 15 fois plus cher que les équipements que le photocopieur remplaçait. Alors, ça n'avait rien à voir, hein, c'était des équipements manuels avec lesquels on travaillait très doucement, etc. Ça n'avait absolument rien à voir. Mais enfin bon, c'était avec ça qu'on faisait les copies dans les entreprises. Et donc, difficile de passer la barrière des services achats avec un produit qui vaut 15 fois ce qu'ils sont habitués à payer. Et donc, je ne vais pas trop détailler l'exemple là, parce que vous verrez que je mettrai dans votre calendrier y a toute une série de webinaires qui sont plutôt introductifs, hein, qui sont organisés par le pôle entrepreneuriat étudiant de l'université. Certains sont un peu trop au niveau débutant pour vous, hein, qui êtes en M2, mais certains peuvent être intéressants pour vous. Ouais, j'étais en train de me dire. Oui, et donc, moi, il se trouve que j'anime un de ces webinaires sur ce qu'est un business model. Et en introduction du webinaire, je détaille un peu l'exemple de Xerox. Donc, du coup, je ne veux pas trop en dire si jamais vous aviez envie d'assister à ce webinaire-là. Bon, en même temps, c'est pour ça que je réfléchissais à la date. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où j'ai pu paraître un peu pensif, et où j'ai sorti mon magnifique agenda papier qui remplace l'agenda électronique qui a disparu dans la cyberattaque. Et donc, en même temps, quand je ferai ce webinaire, pardon, là, vous aurez déjà commencé les cours du projet au business model. Donc, je vous dis pas. Il faut absolument que vous assistiez à ce webinaire. Assistez-y si pour vous, après les premiers cours, tout n'est pas encore parfaitement limpide, ou si vous dites ah, une petite piqûre, une petite de plus synthétique, hein, évidemment, c'est utile. Mais évidemment, vous en saurez déjà plus sur les business models que ce que je pourrais dire en 1 heure. Hein. Donc je ne vais pas non plus trop vous vendre comment dire, le webinaire en question. Par contre, c'est surtout l'occasion de vous parler des midis de l'entrepreneuriat, c'est comme ça que s'appelle la série. Et si les webinaires, souvent, sont quand même, encore une fois, plutôt d'un ou deux crans au-dessous de votre niveau à vous, par contre, il y a aussi des témoignages. Et ça, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc sans donner les détails, Xerox finalement s'en sortira en louant ses photocopieurs au lieu de les vendre. Et après, il y a tout un truc assez fin sur à quel prix ils vont les louer, sur le fait que le prix incluait un forfait, mais que leur espoir était que les entreprises dépassent le forfait. Par ailleurs, il y a des cas où c'est justement le prix, ou dans le cas qui nous intéresse ici avec les magnétoscopes, c'est plutôt le coût d'exploitation, parce que vous voyez que le prix est effectivement très élevé, le coût d'investissement est très élevé, mais le coût d'exploitation est très nettement inférieur aux équipements d'avant. Et Christensen, lui, développe le cas de ces innovations de rupture qui sont un peu traîtres pour les entreprises qui sont déjà implantées sur un marché, parce que justement, l'innovation qui arrive avec des performances qui paraissent inférieures. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il parle du disque dur, mais il donne plein d'autres exemples d'innovations qui sont arrivées avec des performances a priori inférieures, mais qui ont réussi à trouver un public. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, soit parce qu'un critère spécifique était, soit bah, tout simplement parce que c'était moins cher. Hein, il donne l'exemple de l'acier qui était fabriqué dans des aciéries électriques au lieu des aciéries classiques, et ça produisait de l'acier de mauvaise qualité. Simplement, bah, il y a quand même un certain nombre de clients qui n'avaient pas besoin du niveau de qualité standard de l'acier, et qui donc ont acheté cet acier pas cher. Ils l'ont acheté juste parce qu'il était pas cher. Bah, peu à peu, c'est le même phénomène que pour les disques durs tout à l'heure, hein, peu à peu, les fabricants enfin, ceux qui utilisaient ces aciéries-là ont amélioré la qualité de l'acier, si bien que bah, peu à peu, ils ont grignoté tel segment, tel segment, tel segment. Donc, gardez à l'esprit cette définition spécifique de l'innovation de rupture, parce que c'est un élément qui est important, parce que très difficile à gérer pour les leaders en place, qui ont tendance, du coup, à regarder un peu de haut bah, cette innovation qui fait moins bien qu'eux. Ça fait moins peur en général, une innovation qui fait moins bien qu'une innovation qui fait mieux. Voilà, je vous propose de faire une petite pause. Je voulais aller au bout de cette parenthèse sur la diffusion des innovations. Et donc, je vous propose de nous retrouver d'ici 5 à 10 minutes.
Monsieur,
Oui?
excusez-moi de vous déranger. C'est juste pour savoir, est-ce que vous savez combien de temps ça va encore prendre jusqu'à la fin du cours ou pas?
Alors, théoriquement, théoriquement, mon cours, je l'avais prévu pour une dizaine de séances. Comme je suis bavard, je dépasse toujours. Ça fait plutôt 12 ou 13.